Chapitre 29. Le mois de mai s'est installé sur l'éco-hameau de l'Esquin. Un avant-goût d'été flotte déjà dans les airs. Les températures sont élevées. Le soleil est là chaque jour au rendez-vous. Le terrain destiné à la permaculture voit éclore ses premières salades, un lot de radis, quelques concombres, une dizaine d'aubergines et une rangée entière de framboises. La spirale à aromates est resplendissante de feuillage. Johan prête un coup de main à l'équipe de permaculture 3 à 4 heures par semaine. Le reste du temps, elle se repose. Elle prend du temps pour elle et pour Émile. Leur petit potager à aromates, à l'arrière du camping-car, fait des envieux. Émile aime s'en occuper. Elle lui apprend à cueillir les feuilles de menthe et à faire des infusions glacées tout seul. Il en raffole, comme Tom. Les jours où il est en forme, quand il ressemble encore à un semblant d'adulte, Mariko l'emmène avec lui faire quelques travaux d'électroménager. Johan ne parvient pas à l'en empêcher. Elle est bien trop heureuse de le voir retrouver une vie d'adulte pour lui rappeler que son cœur a besoin de repos total. Les jours où il se retrouve trop profondément ancré dans le passé, elle ne peut pas le laisser sans surveillance. Il ne sait plus rien faire seul, pas même préparer un thé sans faire déborder l'eau de la bouilloire, tellement il est distrait et incapable de se concentrer sur une tâche. Même les parties de Monopoly sont impossibles. Il ne tient pas en place. Il oublie les consignes et ne fait que répéter en boucle les mêmes questions. « Pourquoi on est là ? T'es qui ? On rentre quand à Rohan ?» C'est épuisant, mais elle tient bon. Les bonjours, ils passent des moments agréables ensemble. Ils cuisinent des desserts, jouent au Scrabble, se promènent dans le village aux heures les plus fraîches, d'un pas tranquille et en veillant à rester à l'ombre. Émile écrit quelques mots dans son carnet, des lettres à ses parents la plupart du temps, où il raconte ses journées et promet d'être de retour pour la rentrée des classes. Il semble heureux. La seule chose que Johan ne peut pas lui offrir est cette escapade à pied dans la montagne, avec sac à dos et tente. Il ne cesse d'en parler et elle fait la sourde oreille, reportant la question au lendemain. Elle a de la chance qu'il soit patient et arrangeant. Il n'a pas refait de malaise, mais Johan a noté des pertes d'équilibre de plus en plus nombreuses. Sans doute un autre symptôme. Les séances de méditation en plein air se sont répétées à la demande générale, suite au succès de la première séance. Isadora, qui gère les activités du hameau d'une main de fer, a fait passer à tout le monde un programme. Les séances ont lieu un samedi matin sur deux. Émile a assisté à la deuxième et il a déclaré que c'était agréable. Johan croit qu'il n'a pas trop aimé, mais n'a pas osé le dire. Il a du mal à rester centré sur une activité trop longtemps, alors méditer en silence. Poc a bien grandi. Il ne dort plus avec eux. Il passe de plus en plus de temps dehors à chasser. Johan l'a aperçu à plusieurs reprises avec une chatte tigrée. Sans doute un chat de gouttière. Elle est persuadée qu'il s'agit de sa compagne. Il a grandi bien vite, décidément. Elle se console à l'idée qu'il lui ramènera peut-être bientôt un régiment de chatons tigrés roux. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle en ferait, mais ce serait vraiment mignon d'avoir tous ces petits chatons en quête de tendresse. Cet après-midi est particulièrement chaud. Johan est attablée en terrasse au café Dolomite. Elle écrit une carte postale à Sébastien. Une jolie carte représentant le cirque et ses falaises majestueuses.
Cher Sébastien, nous voilà arrivés dans un véritable paradis sur Terre. L'Esquin et son cirque. Je crois que tu aimerais vivre dans ce village même s'il n'a pas la mer et ses bateaux de pêcheurs. Le paysage est grandiose. Des falaises imposantes de calcaire se dressent tout autour, et pourtant intimistes, car nous nous trouvons au cœur de ce cirque, dans la vallée, comme entourés et protégés par ces falaises. Un véritable cocon. Je ne t'en dis pas plus. Je ne veux pas te gâcher la surprise, au cas où tu viendrais un jour avec ton camping-car et Lucky. Je suppose que l'été s'installe doucement à Périac-de-Mer et que les touristes reviennent. Ici, la chaleur est intense, même si les nuits sont extrêmement fraîches. Nous prenons part à l'activité d'un éco-hameau dans lequel nous nous sommes installés. Le groupe s'essaie à la permaculture, c'est vraiment intéressant. Je suis sûr que tu aimerais beaucoup, d'autant que le travail porte ses fruits. Poc vit sa première histoire d'amour avec une chatte tigrée un peu sauvage. Il ne me l'a pas encore présentée. Comment va Lucky ? Je dois maintenant te laisser, me voilà à la fin de la carte. Je ne pense pas que tu en recevras de nouvelles. Nous risquons de ne plus voyager. L'état d'Émile s'aggrave. Le quotidien devient de plus en plus difficile pour lui. Il a presque tout oublié de sa vie, hormis ses premières années. Il ne sait plus qui je suis et son cœur s'épuise. Nous resterons à l'Esquin. Je t'embrasse et te souhaite un bel été. Nous y serons très vite. PS1. Tu trouveras au dos de l'enveloppe l'adresse du Eco Hameau au cas où tu voudrais nous faire parvenir une lettre. PS2. Caresse Lucky pour moi. Johan. La chaleur lui fait voir quelques étoiles quand elle se lève pour quitter le café. Elle longe l'ombre au ras des murs jusqu'à trouver la boîte aux lettres jaune qui annonce une relevée du courrier le lendemain matin avant 10 heures. Elle y glisse l'enveloppe et reprend le chemin du hameau sans se presser. Elle a le temps. Émile est sous bonne surveillance avec Lucia, l'herboriste à la retraite, qui participe activement à la permaculture. Elle devait nourrir les poules et elle a proposé à Émile de l'accompagner.
Ensuite, on ira arroser les plants de tomates ? A-t-elle ajouté en faisant signe à Johan de déguerpir.
Ils sont nombreux à faire ça, à s'occuper d'Émile pour que Johan puisse avoir du temps libre ou se consacrer à la permaculture. Il y a toujours quelqu'un pour garder un œil sur lui. Elle n'aurait pu rêver mieux. En arrivant sur le hameau sous son grand chapeau noir, elle perçoit immédiatement une agitation. Un groupe de 6 personnes s'est regroupé et parle avec animation. 2 autres semblent chercher quelqu'un en parcourant l'allée principale du hameau et en criant quelque chose. Son mauvais pressentiment se transforme en véritable terreur quand elle voit Isadora courir vers elle et toutes les têtes se tourner dans sa direction. Elle s'efforce de rester aussi calme que possible. Isadora arrive devant elle et reprend son souffle.
« On te cherchait !»
Johan va droit au but.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Car elle est persuadée qu'il s'agit d'Émile, que quelque chose lui est arrivé. Le visage blême d'Isadora lui donne raison.
On a dû appeler une ambulance. Il est parti pour l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Répète-t-elle d'un ton qu'elle n'a pas voulu aussi dur.
Il est tombé par terre. Il était inconscient. Elle dit que...
Elle hésite, jette un regard au groupe d'habitants qui les observe à quelques mètres. Parmi eux se trouve Lucia.
Lucia dit qu'il ne respirait plus.
Johan voit de nouveau quelques étoiles danser devant ses yeux, mais elle s'oblige à fixer ceux d'un noir profond d'Isadora pour ne pas valser.
« Mariko peut m'emmener à l'hôpital ?»
demande-t-elle le souffle court.
« Il est en tournée. »
Johan s'apprête à parler de nouveau, à déclarer qu'elle appellera un taxi quand Isadora l'interrompt.
« Mon père va te conduire. »
Pierre-Alain a la délicatesse de ne pas chercher à tout prix à parler sur le trajet de l'hôpital. Il respecte son mutisme et coupe la radio afin de ne pas la troubler. Les minuscules routes de montagne défilent et Johan n'a qu'une idée en tête. Une question obsédante. Est-ce un autre malaise ou est-ce la fin? Elle espère de tout son cœur que ça n'est pas la fin. Pas encore. Ce n'est pas comme ça que ça devait se terminer. Émile est dans une bulle de coton blanc. Ça n'est pas vraiment la réalité, mais c'est l'impression qu'il en a. Il est dans un endroit blanc, entouré de taches blanches. Il fait chaud, mais pas trop. Les voix sont douces, féminines. C'est Marjorie et sa mère. Il est probablement dans son petit lit à barreaux. Marjorie et lui dorment dans la même chambre. Le lit de Marjorie est plus grand et à étage. Le sien est encore à barreaux, mais ses parents ont promis qu'ils lui enlèveront et lui donneront un vrai lit. Il a 4 ans maintenant. Il reconnaît la voix de Marjorie et de sa mère. Il est certain qu'elle parle de lui. La veille, Marjorie a voulu l'amener faire un tour de vélo. Il faisait beau. L'été était arrivé et l'école était terminée depuis une semaine. Elle a demandé l'autorisation à leur mère.
« J'ai 8 ans maintenant, maman »,
a-t-elle déclaré fièrement, debout au milieu de la cuisine, dans sa robe à carreaux bleus et blancs.
« Je peux le surveiller ?» On n'ira pas loin.
Leur mère s'est retournée avec un drôle de sourire, comme si elle était amusée ou juste contente. Lui, il restait en arrière, dans le dos de Marjorie. C'est elle qui lui avait ordonné
« C'est moi qui parle, toi t'es trop petit !»
Il n'a pas bronché. Elle est grande, Marjorie. Elle sait toujours comment faire. Leur mère a dit oui, mais elle a donné des conditions.
il fallait rester dans le lotissement et dans le petit chemin de terre à l'arrière de la maison. Hors de question de passer sur la nationale. Marjorie a acquiescé, puis elle a déclaré
« Viens !»
Elle l'a emmené dans leur chambre. Elle lui a vissé une casquette sur la tête et lui a déversé le tube de crème solaire sur le visage. Il a voulu reculer, échapper à ses mains barbouilleuses, mais Marjorie l'a houspillé gentiment.
« Mimi, faut pas que tu attrapes des coups de soleil, sinon maman nous laissera plus sortir tous les deux !»
Elle l'appelait toujours Mimi, et elle prenait son rôle de petite maman très à cœur. Elle avait ensuite préparé un sac à dos avec une bouteille d'eau et quelques pains au lait.
« On prendra le goûter dans l'herbe, t'es d'accord, Mimi ?»
Il avait acquiescé. Il acquiesce toujours, car il sait que Marjo est comme une maman. Elle n'oublie rien, elle pense à tout. Après ça, ils sont partis tous les deux. Lui sur son tricycle, elle sur son grand vélo jaune. Elle pédale drôlement vite, Marjo. Ils ont roulé dans le petit chemin car Marjo a dit que c'était plus marrant. Elle lui a demandé
« Tu en penses quoi, Mimi? Tu veux aller dans le lotissement ou dans le chemin de terre ?»
Il a dit
« Comme toi ?»
Ça veut rien dire, comme toi. Moi, je trouve que le chemin de terre, c'est plus marrant. Il y a des bosses et des trous. On peut jouer aux obstacles. Toi, t'en penses quoi ?»«
Oui. » »«
Quoi, oui ?»
Elle l'a regardé avec des yeux qui riaient et lui a ébouriffé les cheveux.
Fais pas le timide, Mimi. Dis-moi ce que tu préfères.
Il a essayé d'avoir l'air d'un grand et a bombé le torse.
Le chemin de terre, c'est plus marrant. Je trouve aussi.
Elle lui a souri et a encore ébouriffé ses cheveux.
Super, on y va.
Au bout d'un moment, alors qu'il roulait toujours, Marjo a trouvé un arbre très joli. C'est vrai qu'il était joli. Il avait de belles fleurs blanches partout. Elle a dit que c'était un cerisier, sûrement. Elle a demandé s'il voulait goûter ici, au pied du cerisier. Il a acquiescé et ils se sont assis. Marjo a sorti les pains au lait et la bouteille d'eau. Elle lui a tenu la bouteille pendant qu'il buvait, comme s'il était un bébé, mais il n'a rien osé dire. Et puis une abeille est arrivée et s'est posée sur le pain au lait de Marjo, ce qui lui a fait très peur. Elle s'est mise à crier, à courir partout. Son pain au lait était dans la terre. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi elle hurlait comme ça. Il a pris l'abeille entre ses doigts, tout doucement, en la tenant par une aile.
« Lâche ça, Mimi, elle va te piquer !»
a crié Marjorie. Il l'a lâchée et elle s'est envolée plus loin au milieu d'un champ. Marjo est revenue auprès de son pain au lait qu'elle a épousté avant de le reporter à sa bouche. Elle l'a mangé très vite, comme si elle craignait que l'abeille ne revienne et ne lui pique de nouveau. Puis elle a soulevé Émile dans ses bras et elle a déclaré
« Tu lui as fait peur, Mimi, elle a déguerpi !»
Elle riait et elle s'est amusée à le faire tourner. Il avait ses longues boucles brunes dans les yeux et dans la bouche, mais il riait trop, lui aussi, pour s'en formaliser. Puis elle l'a reposé au sol.
« Il faudra pas le refaire. Promets-le-moi, Mimi, c'est trop dangereux. »
Il a acquiescé. Elle a dit
« C'est bien. »
Sur le retour, ils ont roulé à toute vitesse dans les bosses et les trous et ils criaient chacun à tour de rôle.
« Mimi le dresseur d'abeilles! Mimi à la rescousse !»
Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire « à la rescousse », mais c'était vraiment marrant. Émile distingue un peu mieux les taches blanches autour de lui. Ce sont les rayons du soleil qui filtrent à travers les fenêtres. Il a encore un sourire léger sur le visage. Le souvenir de cette balade à vélo. C'était vachement chouette. Il faudra qu'il demande à Marjorie s'ils peuvent y retourner demain. L'école ne reprend pas tout de suite, ils ont le temps.
Émile ? Émile ? Émile ?
Elles sont là, tout près, Marjorie et sa mère. Il fait un effort pour sortir de sa rêverie. Il cligne les yeux. Ses paupières se soulèvent. Elles sont debout à côté du lit. Une forme noire et une forme blanche. La forme blanche se penche au-dessus de lui. C'est elle qui l'appelle depuis tout à l'heure. Elle demande avec douceur.
« Vous êtes réveillé, Émile ?»
C'est Marjorie. Elle a des taches de rousseur. Il acquiesce. Elle pose quelque chose au-dessus de sa tête. Il est certain qu'elle lui ébouriffe les cheveux encore. Il se tourne vers l'autre forme. Il décide qu'il est assez grand pour demander tout seul. Après tout, il a bien chassé une abeille tout seul hier.
Maman ?
La femme en noir tressaille. Il prend cela pour un hochement de tête.
On pourra retourner faire du vélo demain ?
De l'autre côté du lit, Joanne reste muette, interdite. L'infirmière se tourne vers elle et lui chuchote avec douceur.
J'ai été en gériatrie pendant longtemps, j'ai vu beaucoup d'Alzheimer. N'ayez pas peur d'entrer dans son jeu.
Émile attend immobile dans son lit. Un léger sourire flotte encore sur ses lèvres. Joanne déglutit difficilement. Elle n'a jamais craint d'entrer dans la réalité d'Émile et prétendre être celle qu'il croyait qu'elle était. Ce n'est pas ça qui la fige au sol, qui glace ses entrailles, qui fait brûler sa poitrine. C'est le maman. Elle s'agrippe au barreau gris du lit. Elle se dit que si elle attend suffisamment longtemps, il le dira encore. Maman. L'infirmière lui donne un léger coup de coude pour l'inciter à répondre, alors elle parle d'une voix rauque.
On verra.
Elle ne sait que dire. Émile demande.
On verra quoi ?
On verra le temps et peut-être qu'on partira avec les sacs à dos et la tente. Ça pourrait être amusant, non ?
Sa voix monte dans les aigus et sonne faux. Émile ne semble pas s'en apercevoir.
Avec Marjo ?
Oui, si elle veut.
Elle sent un mouvement au fond de la pièce. Le médecin, le même que la dernière fois, est là, un sourire triste aux lèvres. Il fait un discret signe de tête à Joanne pour lui proposer de sortir discuter. Elle s'adresse à Émile dans un chuchotement.
Je reviens, j'en ai pour quelques minutes, d'accord ?
Elle attend avec fébrilité sa réponse, mais elle ne reçoit qu'un hochement de tête. Pas d'autre maman. Tom avait inventé un langage des yeux et des mains. Il communiquait ainsi. Elle n'a jamais entendu ce mot de sa vie. Il ne l'a jamais prononcé. Maman. Le médecin referme la porte derrière eux. Elle reprend place sur la chaise en mousse bleue. Il se laisse tomber avec lourdeur dans son fauteuil en cuir.
Bien, nous revoilà au point de départ.
Elle acquiesce. Elle retrouve le pot à crayons jaunes aux gommettes vertes. Un autre signe familier. Le médecin attend qu'elle lève son visage vers lui pour commencer à parler.
Votre mari a été victime d'une crise cardiaque. Quelque chose de plus sérieux que sa précédente hospitalisation. La circulation sanguine vers une partie du muscle cardiaque s'est brutalement interrompue, à force d'épuisement sans doute. Sans le massage cardiaque pratiqué par cette dame sur le hameau, il aurait eu peu de chances de s'en remettre.
Joanne écarquille les yeux. Le médecin précise.
Mes urgentistes ont noté dans leur rapport qu'une dame pratiquait un massage cardiaque sur votre mari. Son cerveau a pu rester oxygéné pendant toute la durée qu'ont mis les secours à arriver.
Elle a à peine conscience de pousser un soupir de soulagement. Elle ne sait pas qui a fait ça. Lucia, peut-être Isadora, qui que ce soit, elle lui en est totalement reconnaissante.
Il va se remettre ?
Demande-t-elle anxieusement.
Il s'en remettra, mais son état sera encore dégradé. Je vous recommande encore plus que jamais de lui éviter toute activité physique.
Elle laisse passer quelques secondes, hésitant à poser la question qui lui brûle les lèvres.
D'après son état actuel, est-ce que vous pouvez, disons, me donner un pronostic ?
Le médecin écarte les mains pour démontrer toute son impuissance.
Cette crise cardiaque aurait pu être mortelle. Ça aurait pu être la dernière. Je ne peux pas vous donner un pronostic du temps qui lui reste à vivre. L'échocardiogramme démontre un cœur irrégulier et essoufflé. Il risque de s'interrompre de nouveau. Sa tension artérielle est également en dents de scie. Il peut s'écouler quelques semaines avant qu'il ne refasse une crise cardiaque, ou quelques jours s'il ne se ménage pas.
Elle accuse le coup sans broncher. Il lui faut quelques secondes pour retrouver l'usage de la parole.
Il lui reste tout au plus quelques semaines ?
Le médecin a l'air profondément navré. Elle voit toute la compassion dont il fait preuve au fond de ses prunelles vertes.
Tout au plus, Madame Verger.
Elle n'ajoute rien. Elle vient de prendre sa décision. Elle entend le médecin parler, mais c'est comme si un voile les séparait. Elle n'est déjà plus là.
Je vais le garder ici 5 jours pour être sûr que le cœur reparte. Ensuite, je vous ferai signer le petit papier de sortie.
Elle se force à acquiescer.
Avez-vous d'autres questions ?
Elle secoue la tête et se relève. Elle n'a plus rien à faire ici. Elle veut quitter ce bureau au plus vite.
Aucune.
Le médecin se propose de la raccompagner, de lui offrir un verre d'eau car elle est pâle, mais elle refuse poliment.
Bien, dans ce cas, nous nous reverrons dans 5 jours, Madame Verger.
Au revoir.
Elle a déjà disparu. Le hameau résonne d'éclats de rire et de cris d'enfants. Le petit garçon roux, aperçu par Johan pendant sa séance de méditation, fête aujourd'hui ses 5 ans. 5 autres garçons sont là cet après-midi pour un goûter d'anniversaire digne de ce nom. D'après le cri des gamins, il semblerait que le goûter se soit transformé en bataille d'eau. À l'intérieur du camping-car, Johan a fermé les rideaux jaunes et oranges pour se protéger de la chaleur. Avec une application toute particulière et un air étrangement grave, elle empile soigneusement des affaires dans son grand sac à dos rouge. 2 carnets noirs, son téléphone portable, son portefeuille ainsi que celui d'Émile avec leur papier d'identité. Sa toute dernière toile vierge qui prend la moitié du sac. Une palette, un pinceau et 4 tubes de couleur. Un livre jauni aux pages cornées. Un nécessaire à pharmacie. Une serviette, un bloc de savon. Une tenue de rechange pour elle, une pour Émile. 10 sachets de nourriture déshydratée, des graines et des fruits secs, une gourde, les pastilles pour purifier l'eau. Elle se relève et essuie une goutte de sueur qui perle sur son front. La chaleur est intense. Le mois de juin s'est installé tandis qu'Émile regagnait le hameau. Les 5 jours d'hospitalisation se sont transformés en 2 semaines suite à une hypertension aiguë, puis à une hypotension tout aussi brutale. Le tronc cérébral, a indiqué le docteur Margueron. Pendant l'absence d'Émile, elle a passé de nombreuses heures dans le potager en permaculture. Les premiers melons sont sortis de terre. Elle a été la première à les déguster en compagnie de Lucia, la sauveuse d'Émile. Elle a finalement eu le fin mot de l'histoire. C'est Lucia qui a pratiqué le massage cardiaque et sauvé la vie d'Émile pour quelques semaines de plus. Pendant son absence, un nouveau couple est arrivé sur le hameau. Ils ont 25 ans et ils ont pris 1 an de congé sabbatique. Ils dorment dans une tente en attendant que leur oris soit rénové. Ils s'y attellent toute la journée sous un soleil de plomb. Pendant son absence, enfin, Johan s'est replongée dans le guide des Pyrénées. Elle a acheté une nouvelle carte plus précise qui se concentre sur les Pyrénées-Atlantiques. Poc a regagné le camping-car une nuit en compagnie de la chatte tigrée et Johan a souri au petit matin, en constatant que la compagne de Poc avait les tétons gonflés et roses. Émile est rentré il y a 4 jours, et depuis, il passe la majeure partie de ses après-midi à dormir. Elle lui prépare des infusions de menthe glacée et lui propose des parties de Monopoly quand il est suffisamment en forme. Le médecin a dit qu'il aurait besoin de quelques jours pour se remettre pleinement. Elle fixe le sac rouge plein à ras-bord sur la banquette du camping-car. Il est prêt. Ils vont pouvoir partir bientôt. Elle se dirige vers le plan de travail et se sert un grand verre d'eau. À côté de l'évier se tient une enveloppe blanche portant l'adresse Léon André, chez Monsieur et Madame André, 12 rue du Bourg, 35430 Saint-Suliac. À l'intérieur se trouve une grosse clé marron recouverte de rouille. La clé d'une maisonnette en pierre, entourée d'un potager laissé à l'abandon. Les plants de tomates sont morts depuis longtemps. La petite allée menant à la porte d'entrée doit être envahie de mauvaises herbes. Cela fait presque 1 an que Johan l'a abandonnée. Léon n'y a jamais remis les pieds après la disparition de Tom. Johan était dans ce centre de repos et lui est retourné vivre chez ses parents. Cette maison était sans doute remplie de souvenirs trop douloureux pour lui. Elle sentait l'humidité et le renfermait lorsque Johan y a fait un bref passage à la sortie du centre de repos avant de repartir pour Roanne où l'attendait un certain Émile 26. Elle a soigneusement fermé tous ses volets en partant, et elle a glissé la grosse clé marron dans son sac à dos rouge. Aujourd'hui, la clé est dans cette enveloppe blanche à destination de Léon. Dans l'enveloppe, elle a glissé autre chose, une phrase couchée sur un joli papier cartonné. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. À Léon, en guise d'adieu, Johan. Au dos du carton, une seconde citation. Paolo Coelho toujours, l'alchimiste. Un des premiers livres que Joseph lui a lu. Quelques mots qui sonnent comme un encouragement pour cet homme qu'elle a aimé, puis qu'elle a haï du plus profond de son être. Malgré tout. Il y a toujours dans le monde une personne qui en attend une autre. Paolo Coelho, l'alchimiste.